RMC, entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous. Après les quarts de finale de Champions Cup et à deux semaines de la demi de Toulouse, seul rescapé, pour notre plus grand plaisir, on a remis le nez dans le top 14. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses immuables, par exemple, que le Stade français a toujours du mal, mais gagne toujours, et reste plus que jamais leader. Le Stade Rochelet, par exemple, a plus que jamais du mal, mais sans le réalisme des Parisiens, et n'avance pas trop au classement, ou même recule. Ou encore qu'Oyonnax, même en s'accrochant, bah, on va dire, va tout droit vers la relégation. Mais aujourd'hui, on voulait vous parler, surtout, de la sensation. D'une équipe qui est censée jouer le maintien, mais dont on ne sait pas si elle ne va pas finalement jouer la qualif. Vous l'avez sûrement deviné, on parle de l'USAP Perpignan, vainqueur de Lyon 51-20 à Aimé Giral samedi dernier et actuel 8e du top 14 à 3 points de la 6e place. Les poteaux du jour, alors pour décortiquer le phénomène catalan, alors attention, on a recruté bah, le plus catalan des Palois finalement, ou le plus catalan même des Montpellier, hein. On va voir avec lui, j'ai nommé Julien Landry. Bonjour Julien.
Salut à tous.
Qui sera tiraillé peut-être le week-end prochain. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Avec toi, elle n'a rien de catalan. Elle serait même plutôt du côté de la côte atlantique. Mais en ce moment, elle ne dit pas trop d'où elle vient, en fait.
Toi non plus, d'ailleurs.
Un certain club. Bonjour, Roxane.
Bonjour à tous. On est dans la même équipe, hein, Wilfried.
Ouais, je t'ai entendu, Julien. Et avec nous, un joueur qui a commencé et terminé sa carrière professionnelle à Perpignan, champion de France en 2019. En 2009, pardon. 2019, oui. Non, je pousse un peu trop, là. Retiré des terrains depuis plusieurs années, mais toujours auprès de, pas loin de son club de cœur, l'USAP. L'ancien talonneur Charles Gély est entre les poteaux aujourd'hui. Bonjour Charles.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bienvenue, merci d'être merci. Avec nous pour parler d'un club qui t'est cher, oui. L'USAP, pour évoquer une équipe que l'on n'arrête plus et ça s'entend.
Entre mer et montagne,
suivi victoire d'Afid à Aimé Giral pour les Catalans. Sixième guichet fermé aujourd'hui. Ils sont portés aussi par l'engouement ici à Perpignan depuis des semaines. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté de jouer sans cesse dans tous les endroits du terrain. Et pour moi, ben, ça porte ses fruits parce que les Catalans sont aujourd'hui 9e au classement. Ils pourraient presque regarder un peu vers le haut aujourd'hui en cas de victoire.
Et la réaction catalane avec l'essai en bout de ligne des Catalans. Ils avaient récupéré le ballon. Et c'est Veredamou, le deuxième meilleur marqueur du championnat. 10 essais qui marque son 11e essai de la saison et qui rattrape Baptiste Couillou comme meilleur marqueur d'essai. Cette fois-ci, c'est Ponsonneau Tulagué qui a fait encore une énorme différence sur le côté. Il est passé les bras, le petit offload de Tulagué. Puis derrière, le joueur rebondit et McIntyre avait un boulevard devant lui pour aller sous les poteaux aplatir le deuxième essai. La pénalité nouveau à jouer rapidement par Tom Cochard. Tom Cochard qui va derrière la ligne. Les Lyonnais qui sont trop pénalisés. 13e pénalité contre les Lyonnais. Tom Cochard qui a joué rapidement de manière... comme un petit filou à demi-mêlée, le Tom Cochard, le troisième essai des Catalans. Et voilà les Catalans qui s'envolent au score 25-13.
Les Catalans sont chauds quand même.
Quand t'aimes fort, quand t'aimes fort.
On va laisser Charles chanter peut-être.
Non, oui, non. Je le fais quand il m'est Giral.
Tu nous pousses pas la chansonnette là. Quand même, pas d'entrée.
Juste avant que
c'est bon, c'est commentaire.
C'est un moment très important l'avant-match. Honnêtement, entre l'Estaca et la chanson que vous venez d'entendre, ou avec, donc je disais, le sixième guichet fermé. Tout se passe avant match et même Charlie raconte j'étais encore lorsque les joueurs sont arrivés. Du coup aujourd'hui on fait passer les équipes adverses à l'extérieur du stade parce que la ferveur est si forte qu'ils ont peur d'être un peu mal accueillis. Mais quand les Catalans arrivent, il y a les fumigènes, t'as l'impression d'arriver dans une manifestation. Et après c'est vrai que l'avant match il est très très prenant. Et je disais samedi d'ailleurs, je pense très honnêtement aujourd'hui que le Aimé Giral est peut-être le stade le plus chaud du top 14. Tous les joueurs le reconnaissent. Hugo Mola l'a dit d'ailleurs et lorsqu'ils sont venus s'incliner avec le Stade Toulousain en disant que c'était une ambiance incroyable. Et c'est vrai que Charles, ça fait longtemps qu'on n'avait pas senti une telle ferveur à Aimé Giral.
Oui, c'est vrai que là, on sent vraiment que, on sent qu'au fur et à mesure que la fin de saison approche, et que ça monte en pression, parce que derrière, on fait de gros matchs, de bons résultats. Et on sait qu'ici, voilà, il suffit d'une petite allumette pour que tout s'embrasse. Que ce soit,
on parle du climat aussi. Il n'a pas pu depuis longtemps, en plus, sur Paris.
Voilà, il n'a pas pu depuis longtemps.
Ça peut s'enflammer.
Exactement. Et là, on sent vraiment une attente du peuple catalan, et ça se ressent vraiment à Aimé Giral. En ce moment, les ambiances à Aimé Giral, elles sont extraordinaires. dernière, c'est vrai que voilà, on se régale, le peuple catalan se régale et ils sont là pour soutenir. Et quand ils sont là pour soutenir l'équipe, ils sont à 300%. Et c'est vrai que l'avant-match, c'est énorme. Maintenant, c'est les arrivées avec des fumigènes. On se croirait. C'est impressionnant même. Parce que ça, avant, ça ne se faisait pas trop, ces arrivées comme ça. Mais maintenant il y a ça en plus. Dès que les joueurs sortent à l'échauffement, on sent que il y a l'engouement, tout le monde est prêt. Et sur la fin de saison, il reste 5 matchs. Mais même ça se sent dans la semaine ici. Tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça. Ah. Comme tu vas à la boulangerie, tu vois, c'est n'importe où. Ah, c'est... les gens, ils parlent de ça. Voilà, c'est particulier, l'USAP pour ça. Et Perpignan, voilà, et la Catalogne Nord, parce que tout le monde est rassemblé derrière.
On va reparler, Charles, de ce public perpignanais. Évidemment, on va en parler dans ce podcast, mais on va parler de terrain avant. Charles, vous étiez à Aimé Giral samedi. Est-ce que cette équipe vous surprend ou vous êtes quand même maintenant un peu habitué à sa maîtrise, notamment quand elle joue aussi à domicile?
Moi, elle me surprend toujours. Enfin, elle me surprend parce que je sens vraiment qu'elle progresse de match en match. Et justement, voilà, quand tu parlais de maîtrise, c'est exactement ça. Elle maîtrise le rugby. On les sent poser. Ils paniquent pas. Comparé à quelques années en arrière où c'est qu'on pouvait, dans certains moments du match, quand on était un petit peu sous pression, mais paniquer, faire les mauvais choix. Et là, on sent qu'on reste serein, on est capable de gérer les moments faibles. Et puis, dès qu'on peut contrer l'adversaire et marquer, et on est quand même assez souvent dans l'avancée. En fait, il y a plein de points positifs, que ce soit sur le jeu d'avant, sur la charnière, derrière. On voit que le collectif va bien et du coup, ça fait ressortir quand même quelques individualités. Et c'est vrai que moi, elle me surprend quand même à chaque sortie, quoi.
Julien, alors avant d'essayer de percer les secrets de l'équipe de Franck Azéma, de parler de jeu, il faut quand même se retourner sur le parcours de cette équipe cette saison, avec des chiffres hallucinants depuis la Coupe du Monde.
Oui, l'USAP serait deuxième du top 14 si on avait enlevé les quatre premières journées du top 14 où les Catalans, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des équipes pénalisées par la Coupe du Monde, hein, mais c'est peut-être Perpignan qui a été le plus pénalisé avec 9 absents. Sauf que le problème de l'USAP, c'est que quand tu as les 9 absents qui sont là, derrière, le vivier n'est pas assez important pour assurer la relève, comme ça pouvait être le cas à Toulouse ou dans toutes les grosses formations du top 14. Et c'est vrai que les 9 absents ont pesé lourd. 4 défaites d'entrée pour Franck Azéma pour ses débuts, mais depuis c'est une série de 11 victoires, seulement 5 défaites, 4 victoires consécutives à domicile, 49 points encaissés, des bonus pris contre le Racing, contre La Rochelle, contre Castres, contre Lyon la semaine dernière, plus de 10 ans que l'USAP n'avait pas passé 50 points à un adversaire, et puis des performances malgré tout à l'extérieur où l'USAP s'était incliné que de 9 points du côté du stade toulousain, avait résisté à l'UBB. Et c'est vrai que cette équipe-là, elle est surtout avec cette volonté de jouer de partout, 9 victoires consécutives à domicile, et aujourd'hui, tu l'as dit, ils ne sont plus qu'à 3 points de la 6e place. Alors même s'ils ne veulent pas parler encore qualification, on a l'impression que l'USAP est engagé dans des phases finales qui vont durer très longtemps, et on ne sait pas où elles vont s'arrêter, parce que cette machine catalane, quand elle est lancée, elle est difficilement arrêtable.
Charles, comment est née cette dynamique? Est-ce qu'il y a un moment de déclic? Est-ce que tu vois... vous voyez, on va se tutoyer entre les poteaux, on va se tutoyer, allez.
Oui,
ouais. Est-ce que tu vois un moment de déclic? Ou est-ce que c'est venu petit à petit?
Pour moi, c'est venu petit à petit. Si à un moment déclic, ça peut être quand même la victoire à Castres. Voilà. Mais c'était le résultat de tout un travail qui a été fait en amont par le staff. Parce que même qu'il y a eu les 4 premiers matchs perdus, le staff, et notamment Frag, n'a jamais paniqué. Il disait non, vous inquiétez pas, ça va aller. Et c'est même, de un moment donné, c'était un peu difficile à croire, parce qu'on voyait on se disait, oh, mais ça va être compliqué. Et puis on a vu tout le travail qui, petit à petit, s'est retrouvé sur le terrain. Et cette victoire à Castres, je pense que ça fait partie de ça, c'est un déclic aussi. Il y a un peu des deux, voilà. Il y a un peu des deux, mais maintenant on sent que l'équipe est en confiance.
C'était le 31 décembre, 13 du côté de Castres.
Voilà, 17h avec un match qui n'est pas vraiment abouti, mais finalement avec les ressources, on va chercher cette victoire avec un essai sous les poteaux en fin de match. Et ça fait prendre conscience quand même au groupe qu'on pouvait rivaliser avec tout le monde dans le top 14.
Ouais, Roxane, on associe depuis pas mal de temps l'USAP au maintien, ces dernières saisons, cette saison au départ aussi. Mais cette équipe, quoi, est-ce qu'elle n'est pas l'image du top 14, quoi, surprenante, homogène, ouais, comment tu la vois?
Complètement. Le championnat déjà est hyper serré. Alors, on le dit tous les ans, mais là, c'est vrai que cette année, c'est quand même vraiment très serré, à part les deux premiers peut-être qui se détachent vraiment et Oyonnax qui est vraiment lâché derrière. Et du coup, Perpignan réussit aussi à s'imposer parmi tout cela. Et on le voit notamment, ils se sont imposés face à Toulouse, où je pense qu'avant le match contre Toulouse, tout le monde était d'accord pour dire « oulala, ils risquent voilà, de prendre des culottés ». Et au final, je pense qu'avec ces victoires-là, ils réussissent à prendre de la confiance, à gagner de la confiance en eux. Et oui, c'est vraiment à l'image du reste du top 14. On voit des clubs qui, comme La Rochelle, qui décrochent, exactement. Et après, dans le sens, il y a d'autres clubs qu'on attendait un peu moins, complètement, c'est complètement le cas de l'USAP, qui, eux, réussissent à s'imposer face aux plus grosses écuries.
Un peu comme Pau aussi. Charles, c'est quoi la force de l'USAP ? On va parler jeu, sa qualité première. On entendait Julien, dans la petite prod qu'on a eue, parler de jeu, que ça pouvait relancer de partout, jouer de partout. Est-ce que c'est ça ?
Il y a ça c'est une volonté qu'il y a eu depuis même les années avec Patrick, ouais, où c'est qu'on était vraiment porté, ouais, Patrick Arletas, ouais. Voilà, c'est qu'on était vraiment vraiment de jouer de partout, c'était vraiment l'idée et c'est ce qui prédominait dans les préparations de rencontres. Mais là on est aussi quand même capable d'y greffer le jeu d'avant. On est devenu quand même très performant sur le jeu d'avant. Dès qu'on joue devant, on est capable de franchir à chaque fois cette ligne d'avantage, même d'avancer de 50 cm, et ça c'est très important. Donc on est un peu plus consistant sur ce jeu d'avant et on garde quand même cette envie de jouer parce que maintenant le rugby, enfin, si on veut exister à haut niveau, on est obligé d'avoir, on peut pas fermer le jeu, hein, il faut être capable de jouer. Et en fait c'est cette alchimie entre devant et derrière qui est bien amenée, qui avec un bon lien de la charnière qui fait qu'on est capable de faire de très belles prestations, et donc ça c'est très satisfaisant. Et c'est vrai que pour l'avenir il faut rester dans cette idée, le jeu oui, mais quand même, ouais. En passant par les fondamentaux sur le jeu d'avant. Quoi.
Et puis il y a une vraie force collective, Charles, ce qui s'est aussi progressé depuis 2-3 ans, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi une profondeur d'effectifs du côté de Perpignan qui permet, exactement, à Franck Kazema de faire du coaching. Par exemple, samedi soir, il faut rentrer Ceccarelli, international italien, Aurier, champion du monde sud-africain, Oviedo, international argentin, Sadek Dekmash, Sobella, l'un des meilleurs gratteurs du top 14. Tu fais rentrer aussi aujourd'hui du monde, c'est-à-dire que tu affaiblis pas ton équipe. Et d'ailleurs, souvent cette saison, l'USAP a été chercher des bonus en fin de match contre Bayonne, contre le Racing, contre La Rochelle, contre Castres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que les saisons dernières, il y avait 15, 17, 18 joueurs. Aujourd'hui, il y a une vraie force collective. Et Franck Kazema, il peut gérer son groupe. Et quand tu vois le banc rentrer à l'heure de jeu samedi contre Lyon, tu te dis, cette équipe-là, aujourd'hui, elle est peut-être armée pour jouer autre chose qu'un maintien.
C'est vrai que sur cette profondeur de banc, cette année on l'a, les autres années ben, on ne l'avait pas, et elle nous fait énormément de bien parce qu'on sait très bien l'importance des joueurs qui rentrent. Et à chaque fois qu'ils sont rentrés, donc à partir de la dernière demi-heure, on a réussi à faire la différence, et au moins on n'a pas baissé notre niveau de jeu. Et ça c'est vraiment ce qui a changé aussi comparé aux saisons dernières.
Mais ce qu'on met en avant aussi dans le jeu perpignanais, là on parlait de l'attaque, c'est quand même l'USAP est troisième aux essais marqués, hein, devant, derrière Toulouse, devant l'UBB, devant Toulon, Castres, La Rochelle, mais à la fois 12e défense et 12e aux essais encaissés. Alors est-ce que c'est délibéré un peu, Charles ? Est-ce que c'est obligatoire justement quand on ouvre le jeu comme ça, d'avoir le revers et d'en encaisser ? Est-ce que c'est le revers de la médaille ?
Non, c'est pas la volonté en tout cas du staff, parce qu'on sait très bien que pour être performant, c'est d'abord la défense. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pris on a pris beaucoup d'essais quand même sur les premières rencontres. On a eu de grosses défaites à l'extérieur, où c'est qu'on a encaissé de nombreux essais. Mais ça, tu fais bien de le dire, c'est un point quand même à améliorer, parce qu'on sait que pour exister au top 14, que ce soit sur la fin de saison ou sur les années suivantes, il faut quand même une grosse défense. Alors oui, il faut être capable d'ouvrir le jeu, mais il faut surtout être capable de bien défendre. Voilà, il faut être. Et ça, c'est pour le moment, on n'a pas réussi à trouver cet équilibre-là. On n'a pas réussi à trouver cet équilibre-là. Mais ça, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver absolument, parce que la défense, c'est quand même primordial. Mais c'est vrai que quand on ouvre le jeu, on se fait contrer à un certain moment. Donc il faut savoir, trouver le juste milieu.
Ça donne des matchs enlevés.
D'ailleurs, David Marty, David Marty, surnommé Zaza, parce que Charles l'appelle Zaza et non pas David, l'entraîneur aussi avec Franck Kazema, lors de la conférence de presse, il a dit j'ai aimé comment on a attaqué, mais j'ai surtout pas aimé comment on a défendu, parce qu'il a détesté la manière dont l'USAP a défendu samedi contre Lyon, où ils se sont fait transpercer deux fois en début de match.
Et puis en plus, ça laisse Lyon dans le match au début de la rencontre.
Exactement. C'est exactement ça, ouais. L'adversaire y croit parce qu'on ratait tous les premiers plaquages. Ils venaient dans notre camp, au bout de 4 temps de jeu, ils arrivaient à marquer. Pour nous, c'est vraiment pas bon. Après, bon, la suite du match a bien tourné, mais ça peut mal tourner pour nous si on défend comme ça, quoi.
Ouais, d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous parlez de la défense. Le leader du top 14 du Stade français est la meilleure défense et voilà, l'équipe qui encaisse le moins d'essais. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai qu'on parle beaucoup du jeu du Stade français, mais bon, efficacité, ça rime aussi avec défense. Dans ce collectif perpignanais, si on rentre un peu là-dedans, qui sont les hommes clés? Je vais vous demander d'en citer un, peut-être un joueur sans qui ça ne marcherait pas pareil, Charles.
Je vais vous dire ben là, la charnière. La charnière, je trouve qu'il mène très bien le jeu. On va en citer deux, voilà, le 9 et le 10, hein, que ce soit Tom et Cochard ou Sadek, Dekmash, voilà, et Jack McIntyre qui fait des gros matchs. C'est très important d'avoir ce charnière et c'est vraiment eux, je trouve, moi, qui régulent en ce moment entre les phases où c'est qu'on va garder un peu le ballon devant, on va se faire relever les avant pour user un peu l'adversaire, essayer de les fixer sur devant et après, derrière, dès qu'on arrive à éjecter le ballon en mettant de la vitesse, où c'est que Jake fait les bons choix. Que ce soit le jeu à la main, le jeu au pied, le déplacement.
Il fait une sacrée saison.
D'ailleurs, je trouve comment sur la première mi-temps de samedi, il a un petit peu tenu, il a tenu l'équipe parce qu'on voyait que c'était lui qui impulsait à chaque fois, qui était plus vif, qui faisait les bons choix. Et c'est important. Et c'est vrai que quand la charnière fait les bons choix, techniquement, stratégiquement, qui savent gérer les avants, ben les matchs sont plus simples.
Roxane,
moi, j'aurais
un joueur de l'USAP.
Thomas Sohalan, qui plus, pendant le tournoi Destination, pour le rappel, il a mis sa carrière internationale entre parenthèses, il est international italien, donc il était présent avec l'USAP pendant les doublons, et franchement, on l'a vu pendant ses doublons, c'était vraiment un des hommes du match quasiment à chaque fois, et il fait preuve d'un réalisme à chaque match, ouais. Enfin, moi, je le trouve assez impressionnant, et surtout pendant les doublons.
C'est vrai, bon, la raison, beaucoup, Roxane, aussi. Ouais.
Ça fait beaucoup de trois quarts, ça, Julien. Est-ce que tu vas nous sortir
évidemment, McIntyre a pris une dimension supplémentaire cette année parce que la saison dernière, il partageait ce dont parlait Charles, la gestion du jeu avec Tristan Teder. Et il a fallu gérer aussi l'absence de Tristan Teder, qui était sûrement le meilleur catalan la saison dernière. Et c'est vrai que McIntyre a pris de grosses responsabilités cette saison. Alors évidemment, on pourrait vous parler de Pozzolo Tuilagi, qui a été encore incroyable samedi. Mais bon, le jeu d'avant est ancré dans le jeu des Catalans, donc c'est normal qu'ils soient tous brillants. Moi, j'aime aussi beaucoup Geronimo de la Fuente, qui est le régulateur de cette ligne de trois quarts. Ouais, le taulier qui est un petit peu le papa, celui qui a le plus d'expérience, qui est là depuis longtemps, qui est souvent capitaine, qui est un garçon un peu de l'ombre et qu'on voit évidemment un peu moins, mais qui a un rôle essentiel dans aujourd'hui ce qui se fait l'USAP, parce que l'expérience, tu sens qu'il est capable aussi de calmer tout le monde. Il a pris le relais de Mathieu Acebes, qui est toujours là, mais qui aujourd'hui est un peu déclassé dans la hiérarchie. Et c'est vrai que Geronimo a pris beaucoup, beaucoup de place dans le collectif catalan.
C'est vrai. Et Veredamou, il n'y a pas Factor X aussi, le Factor X Veredamou qui donne si. On parle de dimension là, c'est des animaux,
deuxième
dans le bon sens du terme, hein, physique.
Ah oui.
Physique, non, mais c'est vrai, on parle souvent de joueurs comme ça, qu'on est super pouvoir, on dit les joueurs qu'on est super pouvoir, et Veredamou.
Il fait de grosses différences. D'ailleurs, même sur les stats GPS, il le voit. Alors, des fois, sur un terme de course, ce n'est pas celui qui fait le plus de volume de course. Mais par contre, en termes d'accélération et de haute intensité, c'est celui qui parcourt le plus de mètres à haute intensité. Et on voit que, du coup, ce sont des stats. Mais ça se voit sur le terrain. Et en ce moment, c'est vrai qu'il marque beaucoup d'essais. Il est très performant. Mais comme le collectif va bien, c'est vrai qu'on pourrait sortir. En fait, on pourrait sortir beaucoup de joueurs. Même devant, il y a Yako Van Tonder,
qui a fait un match énorme
aussi ce week-end. Il a, à chaque plaquage, il a été très, très violent sur les plaquages. Il a annihilé beaucoup d'actions lyonnaises. Après, il porte le ballon. Il est capable aussi de transpercer, de faire la bonne passe au bon moment.
Enfin, voilà, Alan Brazo, qui est là aussi depuis longtemps.
Alan aussi, qui fait une très grosse saison. Ouais. En touche, qui a bien mené la touche. Là, c'est vrai qu'en ce moment, le collectif va bien, on fait de belles performances, donc il y a beaucoup de joueurs qui émergent individuellement.
Julien, tu parlais de Pozzolo Tuilagi, comment il a digéré le tournoi Destination ?
très bien. Bien. Ou en tout cas, je... ouais, aussi bien que les poulets qu'il doit manger avec Henri. non, mais il est surprenant de maturité. Tu sens en plus qu'il gagne en dimension physique.
Mais ça aurait pu avoir une influence. Voilà, d'être.
Oui, non, mais après, il est reparti avec les 20 ans. Mais je pense que. Ouais, exactement. Non, mais c'est toujours le même. On l'a encore vu sur le terrain. Et puis surtout, il est encore exceptionnel sur le deuxième essai. C'est lui qui fait la différence. Il est capable de faire jouer derrière lui. À l'heure de jeu, il va marquer l'essai derrière le ruck parce qu'il est encore là. Il est partout. Ouais. Le nombre de mètres parcourus par Possolo Tulagi sur un match, c'est assez impressionnant. Il est surprenant dans la manière dont il est capable de jouer. Ouais, c'est vrai que. Et puis en plus, aujourd'hui, les défenses, elles sont focalisées sur lui. Il est en train de gagner en puissance sur les rucks. On les voit d'ailleurs sur les groupes pénétrants que c'est aujourd'hui la vraie poutre des Catalans. Ils s'organisent autour de lui. Ouais, ça devient un joueur très dominant.
En plus,
comme quand Henri récupérait le ballon, tu sentais la ferveur qui montait à Mégiral en disant « Ouh !» Et bien, Possolo, c'est pareil aujourd'hui. Sauf que la différence, que je disais samedi, c'est que quand Henri jouait, d'ailleurs, Charles l'a connu, il ne se passait pas grand-chose derrière Henri parce qu'il avait tendance à aller percuter, il allait au sol. Tu sais qu'avec Possolo aujourd'hui, il va percuter et qu'en plus, derrière, il va se passer quelque chose parce qu'il a des mains tellement incroyables qu'il est capable de faire jouer derrière lui. Donc la ferveur, elle monte et elle continue d'accompagner le jeu catalan parce que oui, bah, c'est la coqueluche aujourd'hui des Mégiral.
En plus, il est d'une régularité sur chaque match. Tu sais que c'est un peu la valeur sûre, quoi. Tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui.
Ouais. C'est vrai qu'il est, il fait une très grosse saison. Et après, pour revenir à son retour du tournoi Destination, ouais, alors ne vous inquiétez pas, il est dans une famille où c'est que le rugby de haut niveau, ils connaissent par cœur. Et ils ne le laisseront certainement pas s'enflammer ou prendre d'eau ou quoi que ce soit. Je peux vous dire que ça, avec Henri, il n'y aura aucun souci. Et même lui, il sait très bien le chemin qui lui reste à parcourir pour arriver vraiment à son plus haut niveau à lui, parce qu'il est déjà au haut niveau, mais il a encore une marge de progression énorme. Et c'est un garçon qui est, nous on l'appelle Moto, parce que depuis tout petit, il le connaît. Et bien voilà, donc il est très humble, qui travaille, qui dit rien, et qui, son but, c'est d'apporter le plus possible à l'équipe. Il est capable d'aller percuter, de faire jouer après lui, de jouer après contact. Voilà, il a
Moto, parce qu'on monte sur la selle et il vous emmène, c'est ça?
Non, il l'avait expliqué, c'est parce que en Angleterre, il y avait une pub sur les Motorola, et son père un jour l'a appelé comme ça, et du coup, dans la famille, c'est resté. Voilà, c'est resté comme ça, du coup, il l'appelle Moto. Voilà.
Ouais, une belle cylindrée quand même.
Faut
quand même se pencher sur messieurs dames, sur le travail de Franck Azéma quand même et son staff. Déjà, comment il évolue, Charles? Comment il évolue, Franck Azéma? Il est chez lui, hein, il sortait d'une expérience à Toulon moyenne, on va dire, un peu difficile. Comment il évolue dans l'environnement de l'USAP, Franck Azéma?
Déjà, on fait vrai que pour l'USAP, c'est une grande chance d'avoir un entraîneur de ce calibre. Alors moi, je l'ai connu en Crabos, c'était mon entraîneur quand je suis arrivé, directeur du centre de formation, donc celui qui m'a fait monter en première. Donc ouais, je le connais très bien. Et on a la chance qu'il soit là parce que... Mais en fait, il est très professionnel parce qu'il cadre vraiment tout. Il sait
ça
exactement
pas, hein.
C'est par rapport
à la ferveur catalane un peu, c'est l'eau un peu, on a envie de dire.
Ouais, mais c'est ce qu'il faut,
quoi.
Parce qu'il faut pas, il faut être lucide. Il faut être lucide sur les choses. Enfin, là, c'est très bien, mais quand on regarde nos structures, l'environnement du club et tout, c'est un petit peu les Gaulois contre les légions romaines. Hein. Donc voilà, il faut quand même rester lucide. Et sur ça, Franck, il s'enflammera jamais, il sera toujours très lucide. Et bien, il est capable de très bien cadré, savoir exactement le travail qu'il y a à faire à la semaine pour préparer les matchs, que ce soit en termes physiques, tactiques, stratégiques. Et ensuite, il donne aussi une grosse confiance à l'équipe. Son management est très humain. Il est capable de dire les choses quand il faut les dire, mais après, derrière, il donne vraiment les clés aux joueurs pour arriver à s'exprimer et à passer devant sur le terrain. Voilà. Il n'est pas réducteur dans cette manière de manager.
Julien, puis s'appuyer sur le travail. Il s'est appuyé sur le travail de Patrick Arletaz.
Exactement. Ce que j'allais dire, c'était le successeur idéal, non?
C'était le successeur idéal, voilà. Et c'est vrai que, Patrick était un passionné de l'USAP. Franck est aussi un passionné de l'USAP et tout le staff qu'il a autour, c'est aussi des passionnés de l'USAP. Donc, c'est vrai que ça y fait et ça, c'est très important quand même, parce que c'est tous des gens qui sont issus du club et qui aiment le club.
Ça, c'est vrai. Julien, parce qu'il s'est mis dans les choses. chaussons, il s'est mis dans les chaussons de Patrick Arletas parce qu'il a conservé le staff. Déjà, il a conservé tout le staff.
J'ai eu l'image de Patrick Arletas en chaussons.
Imagine bien. Ils ont tous les deux en plus la même idée du rugby en fait. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a facilité. Ouais. Et Patrick, il avait cette volonté de beaucoup jouer, de ne pas avoir un jeu réducteur. Je vous ai toujours dit, je pense que la dépossession, quand Fabien Galthié doit parler dépossession à Patrick Arletas, Patrick, il doit avoir des cheveux, il doit dire ah, j'en peux plus de ce mot-là. Et c'est vrai que d'ailleurs, à l'USAP, il n'y a pas trop de dépossession. Et même si Franck, il est un peu plus, comme le dit Charles, un peu plus cadré peut-être le jeu, mais il y a aussi cette volonté d'avoir cette envie de jouer au rugby sans cesse, d'essayer de porter les ballons sur les extérieurs. Voilà, il s'est mis dans le cocon. Il connaît le club par cœur. Il était là en 2009 quand l'USAP a été champion de France. Il était avec Jacques Brunel et Bernard Goutat dans le staff. Donc, il connaît ça parfaitement. Et il n'a pas débarqué dans un monde surprenant. Hein, parce que c'est vrai que quand tu débarques de l'extérieur à Perpignan, ça peut être surprenant. Parce que
c'est quoi, justement, maîtriser l'environnement? Comment on peut expliquer ça aux gens?
C'est comme
quand on va chercher sa baguette.
C'est comme à Marseille. Si tu veux, c'est le Marseille du foot. C'est-à-dire qu'après 4 défaites, Franck Azéma, il y avait sa tête presque clouée sur les murs en disant ah, on n'en peut plus, il faut changer. Et ça va très vite à Perpignan. Et Charles disait tout à l'heure, toutes les semaines, quand tu vas au boulanger, tout le monde parle de l'USAP, tout le monde est biberonné à l'USAP, tu parles de ça en permanence. Patrick Arletas, il disait tous les jours, on me parle de l'USAP, du matin au soir. Et c'est vrai que quand ça va, c'est rigolo, il faut s'adapter à cet environnement qui est. Voilà, Charles. Tout à l'heure, c'était marrant, tout à l'heure, il a dit le peuple catalan. Il n'a jamais parlé de Perpignan. Il n'a pas dit une fois le mot Perpignan. Il a dit peuple catalan parce que c'est une identité qui se déplace au stade. D'ailleurs, on diffuse souvent la causerie de Patrick Arletas lors du match de maintien en disant vous portez pas le maillot sur votre corps, vous portez le drapeau catalan. Et c'est plus que le maillot que vous portez. C'est une identité, c'est un peuple qui est derrière vous. Et ça, évidemment, c'est très, très présent et très prenant.
C'est exactement ça. Ça c'est vrai.
Il nous fout les poils, rien qu'en parler.
Non, mais oui, c'est vrai qu'ici, voilà, on peut pas dire que c'est la ville de Perpignan qui va voir le match.
C'est magnifique.
Il y a des gens qui sont abonnés, qui sont à Font-Romeu, qui descendent pour voir le match et qui remontent. Alors, ils le font là au mois d'avril, mais ça va. Mais au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, quand il neige, quand il y avait de la neige, mais quand il fait froid, tout ça, et bien, ils descendent pareil, ils remontent. C'est vraiment des passionnés. Et c'est vraiment tout le département, toute la Catalogne Nord qui vient. Il y a même des gens de Barcelone qui viennent voir, qui sont abonnés aussi, qui viennent voir. C'est un peuple.
Et puis, tu en as parlé au début de ce podcast, il y a Aimé Giral. Alors écoutez l'entraîneur David Marty parler de son public, c'était samedi après la victoire sur Lyon.
Incroyable, à chaque fois je le dis, il n'y a plus d'objectifs. Et à chaque fois il y a encore plus d'engouement, encore plus de folie. Là il y a encore, on les entend, une pensée aussi pour le gars des Baratines, ça fait un an je crois. Il y a les gars de l'OM qui sont venus, voilà, c'est incroyable. Et puis ça fait boule de neige et il faut que ça continue.
Et ça tambourine jusqu'à la côté de la salle de presse, quoi. C'est voilà.
Oui, oui.
Roxane, Roxane, tu penses ça pousse un tel public, ça peut presser aussi les joueurs. Faut l'environnement, comme on disait, faut y être préparé, quoi.
Ouais, faut y être préparé, mais bon, je pense que quand on arrive à l'USAP, on est prévenu déjà de l'environnement dans lequel on arrive. Alors après, bon, oui, c'est sûr que ça peut un peu, des fois un peu stresser les joueurs, mais je pense qu'au contraire, un public comme ça, ça booste vraiment les joueurs. On le voit de toute façon, tous les clubs qui fonctionnent bien, du moins pas mal d'entre eux, ont un fort public derrière eux. Bayonne, ça fonctionne bien parce qu'ils ont un public incroyable derrière eux. Toulouse, c'est pareil. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est si difficile de s'imposer à l'extérieur, je pense. C'est quand, on le sait, le public adverse, ça peut être dur
ça
à gérer pour les joueurs adverses, quoi.
Ouais, sur l'arbitre aussi, sur. Enfin, c'est pas toujours. Tu l'as dit, Charles. Hein, des fois, ça gronde aussi. Hein, Comment tu l'as toujours bien vécu ça
les supporters sont très exigeants. Il faut mieux gagner. Ouais. Hein, il vaut mieux gagner. Ouais. Enfin, quand on gagne,
ça t'est arrivé de la ressentir négativement cette pression?
Ah, mais il y a la. Mais après, si, oui, il y a une. Elle est la pression, mais elle est juste. C'est-à-dire, si tu fais ce qu'il faut sur le terrain, ils veulent voir que tu te donnes à 200%. Si tu fais ce qu'il faut sur le terrain, ils ne te reprocheront rien. Si par contre, ils voient que tu triches, pas que tu triches, mais que tu n'es pas à 200%, tu n'es pas à l'image de ce que l'USAP doit être, là, ils t'en veulent. Et donc, du coup, ça peut être assez compliqué. Mais à chaque fois, c'est juste. Mais quand ça se passe mal, c'est vrai que ce n'est pas facile après d'aller soit à la boulangerie, soit d'aller faire les courses. Moi, il y a même la mamie qui avait 85 ans, qui passait la tête par-dessus la clôture, qui me disait « Ah, vous avez perdu hier !» et tout ça. Donc, c'est des passionnés. Quoi. C'est vrai qu'on peut le comparer un peu à Marseille. Ici, il faut que ça gagne. Par contre, quand ça gagne, c'est agréable parce qu'ils sont derrière nous, ils nous galvanisent. Mais même jouer rentrer sur le terrain des Mégirales, quand on entend le public, on entend tout le peuple, ça galvanise énormément. Tous les joueurs, ça, tous les joueurs qui jouent pour l'USAP, surtout ceux qui arrivent un petit peu de l'extérieur, au début, ça les impressionne quand même. Ça, c'est impressionnant. Et ça déstabilise aussi l'adversaire. Je crois que l'année dernière, il y avait Brad Shield qui devait, l'ancienne troisième ligne, All ouais. Black, enfin, néo-zélandais, qui est parti jouer maintenant, qui est rentré, je crois qu'il est aux Hurricanes. Ouais. Sur un match à l'extérieur, il ne devait pas jouer. Et quand il voit tous les publics qui s'étaient déplacés, tous les Catalans qui étaient venus à l'extérieur et tout, il est allé voir Patrick, il a dit non, mais je veux jouer finalement. Je veux jouer parce que là, ils sont là, ils sont venus. Patrick a dit non, là, c'est pas possible, là, on n'a pas prévu de faire ça, on peut pas. Et pour dire, tu vois, qu'il y a certains joueurs que ça touche et que ça galvanise énormément. Et ça, c'est vrai que quand on rentre dans un Mégirales qui est en fusion, on peut le comparer un peu à une arène. Hein, mais on joue souvent, on est au-dessus de nos moyen. Voilà.
D'ailleurs, le loup s'était entraîné toute la semaine avec les chants d'ambiance USAP pour se préparer à l'ambiance.
Ça, c'est la première fois que je l'entends. Ça marque pas. Ouais. Même les adversaires commencent à prendre ça en compte et à mettre la sono dans leur stade à l'entraînement. Bah, là, c'est que vraiment le public compte. Hein. Là, on le voit.
Bon, on revient sur la situation comptable. L'USAP, on l'a dit, aujourd'hui 8e à 3 points de la 6e place et avec 11 points d'avance sur la place de barragiste occupée par Montpellier. Alors, on va faire un premier tour de table. Est-ce que avec cette avance, l'USAP va éviter ce barrage en fin de saison? Question à vous trois. Charles.
Et comptablement, on n'est pas sorti encore de cette 13e place.
Donc,
je vais pas peu porter. Non, ouais, je vais pas. On est en bonne position.
Il veut pas porter l'œil.
Ouais, voilà. Mais on est en bonne position. Mais comptablement, c'est pas fait. Et on a vu qu'à chaque week-end, il y a des surprises. Donc, il faut encore être sérieux et gagner les matchs. Donc, je dirais non, il faut faire attention encore.
D'accord,
non,
Roxane.
On n'est pas sorti.
Oh, moi, je pense qu'ils sont plus proches du top 6 que de jouer le maintien quand même. Et franchement, quand on voit même d'un point de vue comptable, on est plus proche des places qui sont devant que celles qui sont derrière. Donc, je pense que je les vois pas quand même aller chercher les 6. Franchement,
c'est la question d'après.
Ça me semble. pardon, j'avance le fil conducteur. Tu sais, je remplace Denis, il est pas là aujourd'hui. Donc,
Oui, on l'embrasse d'ailleurs.
Denis. Non, franchement, je les vois. Je les vois pas. Je pense qu'ils sont sur une telle bonne dynamique avec les beaux jours qui sont là.
Plus
et
de
tout.
Danger pour c'est... eux.
Ouais, je pense pas qu'il n'y ait plus de danger.
Julien.
À mon sens.
Oui, ils sont maintenus 11 points d'avance. Après, quand tu regardes les calendriers de toutes les formations, c'est compliqué. L'USAP aura deux matchs à négocier à domicile.
C'est pas loin d'être 3 victoires d'écart. Ouais,
ouais, enfin, un contre Clermont. Bonus, mais... Quand tu vois Clermont, ça sera juste après la demi-finale de Coupe d'Europe ou la finale s'ils sont qualifiés. Ils reçoivent Clermont et l'UBB. Quand tu vois la domination, la puissance qui dégage à Aimé Giral, tu te dis que, comme dit Charles, ils sont prudents, mais... Ça sent quand même aujourd'hui très bon. Ils sont à 95% sûrs d'éviter cette 13e place.
Alors, voici le calendrier sur les 5 dernières journées. Vous allez répondre à une autre question. Alors, Charles, attention, on va regarder.
Il va dire non,
sur le maintien.
Oui,
voilà,
vous avez répondu.
Alors, le match samedi, match à Montpellier ce week-end. Ensuite, Clermont à domicile à Aimé Giral. Déplacement à Bayonne, réception de l'UBB et dernier match à Pau.
Finale.
Madame et messieurs, est-ce que l'USAP peut faire le coup du siècle et aller chercher une 6e place? Alors Charles, il a même pas voulu nous dire qu'ils étaient maintenus. Alors une 6e place, il va raccrocher.
Il faut le faire dans l'ordre. Déjà dans l'ordre, c'est avoir le maintien, cette 12e place, le plus tôt possible. Une fois qu'on a ça, après, On verra ce qui se passe. Mais d'abord, obtenir ça. Et après, l'appétit vient en mangeant. Si on est capable d'être 12e assez rapidement, on pourra regarder...
D'être loin de la 12e place.
Oui, on est loin, mais sauf que comptablement...
Au moins 12e, ce que tu voulais dire, oui. Au moins 12e.
Être au moins 12e, oui. Voilà, non, mais être 12e, on est maintenu. Voilà, donc c'est aller chercher cette place, être maintenu. Une fois qu'on aura ça, on pourra voir les choses différemment.
Julien, tu mets le billet ou pas?
Oui, mais quand je vois le calendrier de l'USAP, alors évidemment, il faut les gagner les matchs, hein, mais je me dis qu'on va en parler ce week-end à Montpellier, ça va être terrible pour les Montpellierens.
Ça peut être déclic.
On va en parler. Ouais, ça peut être. Non, mais c'est le match bascule pour l'USAP, je pense. Ça peut être le match de la bascule. Après, ils peuvent aller jouer une finale pour la 6e place à Pau. Et puis tu vas à Bayonne qui est en difficulté. Ils ont le calendrier où tu te dis. Qui peuvent, comme tu dis, créer la surprise et faire quelque chose d'incroyable. Oui, il faut mettre une petite pièce. Il faut mettre une petite pièce. Ça se joue, la pièce.
Si on est joueur,
Denis serait là, il mettrait un billet même.
T'es joueuse, Roxane ?
Non, je ne suis pas joueuse. Je suis prudente.
Non,
franchement, avec les équipes.
Le cut est un peu haut.
Ouais, franchement, avec les équipes qu'il y a devant. Je vois mal.
Ils sont à 3 points de La Rochelle.
Ils sont à 3 points de La Rochelle. Ouais, après, ils peuvent peut-être passer devant La Rochelle, mais.
La dynamique n'est pas bonne à La Rochelle, c'est vrai.
Je miserais plus sur Pau. Qui est d'une régularité
un point devant
depuis le début de la saison.
7e et 50 points.
Ouais. Et non, franchement, devant,
parce que devant, c'est vrai qu'il y a du lourd.
Je vois pas Bordeaux lâcher. Je vois pas Toulon lâcher non plus. Bah, le Racing revient bien. Donc bon.
On va écouter à ce sujet. On va écouter à ce sujet l'avis des Catalans, l'avis du deuxième ligne, Mathieu Tanguy.
Ah, non, mais on continue. Encore une fois, on vous le laisse à vous. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter cette place de barragiste. Et on prendra match après match. Je sais pas pourquoi jouer petit bras et vous la mettre à l'envers en essayant. Je vous dis que nous, au quotidien, on prend match après match. Et vraiment, on fait les comptes à la fin. Donc on est content. C'est vrai qu'on sait que voilà, en plus avec le bonus à la fin, ça nous fait un matelas aujourd'hui. C'est vrai de 11 places. Mais Nemo l'a dit et c'est une vérité. Aujourd'hui, le championnat, il est ce qu'il est. On va se déplacer aussi 3 fois. Tu perds ces 3 matchs, tu en perds un à la maison. Tu sais pas où t'es. Tu sais pas où tu seras. Donc on prend match après match. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'éviter cette 13e place. Et prendre match après match. Et après, voilà, hein, on verra où ça mène le jour où on y sera. On verra.
Bon, on verra ça. On va justement, on va basculer directement sur le week-end prochain. Attention, derby Montpellier-Perpignan. Bon, la pression, on va dire, est sur Montpellier. Hein. On annonce combien de supporters catalans, Julien ?
Ah, mais je pense que ça va grossir de jour en jour. Ça va grossir de jour en jour.
Selon la police, selon les organisateurs.
Samedi, aux dernières nouvelles qu'on m'a dit, il pourrait être 4000 catalans samedi au GGL dans un stade qui peut avoir 11 000, 15 000 peut-être maximum. Mais oui, il pourrait y avoir un tiers de catalans samedi après-midi au GGL Stadium.
Comment tu vois ce rendez-vous, Charles ?
Ah ben c'est le match de la bascule, voilà, comme il a dit tout à l'heure, ça a été dit, c'est pas être le match du maintien, hein. Voilà, hein, si on gagne. Ben d'ailleurs, on voit que les supporters s'y trompent pas, hein, pour se déplacer, pour qu'il y en ait 4000 qui veulent aller voir ce match-là, c'est que vraiment pour nous ça s'apparente à un match de phase finale quand même. Donc c'est vrai que si on arrive à faire un résultat là-bas, les choses peuvent être envisagées.
T'as joué à Montpellier, mais tu dis on, hein, pour Perpignan.
J'ai expliqué. Voilà, j'ai joué à Montpellier parce que bon, c'est comme ça, c'est le sport professionnel. Je sais, il s'est passé des bonnes choses et des moins bonnes, mais ça a été comme ça et ça a été un bon moment. J'ai encore pas mal de relations là-bas et tout va bien là-bas. Hein.
Mais la c'est pression vrai que sur Montpellier,
quand je dis on, c'est Perpignan.
Charles, la pression sur Montpellier.
Sur les deux,
Montpellier est 13e avec 38 points, 4 points de retard
plus,
sur Lyon.
Un peu plus sur Montpellier. Montpellier, ils sont dans l'obligation de faire un résultat. Voilà. Ils sont dans l'obligation de gagner, obligatoirement. Hein. Parce que sinon, ils vont envisager réellement ce match de barrage. Et nous, on y va quand même en disant si on fait un résultat, ben c'est tout bonus pour nous. Et ça nous permettra d'envisager la suite du championnat un peu plus sereinement. Voilà.
Bon, Julien, tu connais ces deux clubs par cœur, ces deux équipes par cœur. La clé entre les deux.
Je pense que si l'USAP est capable de résister à la puissance montpelliéraine, on sait que Montpellier est sûrement aujourd'hui l'une des équipes les plus denses de ce top 14, et que l'USAP est en capacité de résister. Si l'USAP est en capacité de résister à la densité montpelliéraine avec les pattes qu'il y a derrière l'USAP, ils peuvent faire, alors je ne vais pas dire exploser le rideau défensif montpelliérain, mais si devant ils résistent, si ils sont portés par cette ferveur, les Catalans sont en capacité de faire un coup à un très 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 gros coup du côté de Montpellier. Alors voilà, le MHR a l'obligation de s'imposer, parce que sinon, si on parle de la bascule pour l'USAP samedi, si le MHR s'incline contre l'USAP samedi, le MHR basculera lui aussi directement sur ce match de la 13e place, cet access match. Donc voilà, c'est un peu la bascule pour tout le monde, c'est le match de la survie pour le MHR, le match de l'espoir pour l'USAP. Mais si l'USAP résiste à la densité montpelliéraine, ils seront capables de faire quelque chose de très grand au GGL Stadium.
La dynamique est inverse, Roxane, hein, en plus, hein, entre les, les deux. Le mieux qu'a vécu le MHR pendant quelques semaines, ça n'a pas duré.
Non, ça n'a pas duré. L'USAP, on le disait, c'est 4 victoires consécutives sur les derniers matchs. Montpellier, c'est 4 défaites, dont une élimination en Challenge Cup. Et depuis l'arrivée du nouveau staff, c'est 7 victoires et 7 défaites. Donc, c'est pas réjouissant. Ouais, ouais.
C'est pas réjouissant, c'est vrai qu'il y a des pressions sur Montpellier. On peut, pour finir, se projeter. On va mettre une pièce quand même sur le maintien de l'USAP, on l'a dit. Charles, quelles ambitions, j'ai envie de dire, pour les années à venir? Parce que une bonne saison, mais le top 14, c'est un éternel recommencement. C'est vrai qu'on dit que le bassin économique, c'est pas celui des grandes villes du top 14, comme Toulouse, on pense à Bordeaux, à Paris, voire à Lyon. Mais est-ce qu'on peut, Charles, imaginer un retour de Perpignan au plus haut, comme en 2009, 2010, et comment faire?
Ça, oui, on peut l'imaginer, bien sûr. Mais après, c'est surtout le comment faire. Parce que là, il faut savoir que quand même, on n'a pas de centre d'entraînement. On s'entraîne dans des Algéco. Le centre de formation, c'est très compliqué. Ils n'ont plus les appartements. Ils sont à droite, à gauche, dans Perpignan, logés dans Perpignan. Donc, en termes de structure, c'est quand même très compliqué. Et on sait très bien que pour travailler comme il faut et attirer les bons joueurs aussi, il faut des conditions de travail et des structures qui soient faites pour le haut niveau. Et pour le top 14. Donc ça, il y a pas mal de choses à améliorer pour pouvoir espérer avoir de bons résultats dans l'avenir en top 14 et pouvoir rester à haut niveau. Alors oui, on peut l'imaginer, bien sûr, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ce que je disais.
Les travaux sont en cours, Charles. En tout cas, ils sont en train de se lancer.
Ça fait 10 ans qu'ils sont en cours. Alors le jour où ça sera fini, on dira ok, là on y rentre. Pour le moment, je sais comment c'est. Non, ils sont en cours. Non, ils sont pas. Ça fait 10 ans qu'ils sont en cours. Voilà. Donc, il faut quand même améliorer tout ça, parce que sinon, on sera toujours à la lutte avec le couteau sous la gorge pour être en haut de Pro D2 et bas de Top 14. Ce qu'on a fait les dernières années, on est quand même 13e budget de Top 14. Donc, statistiquement, normalement, on est plus vers le bas du Top 14 que vers le haut. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est un petit peu, on est un peu en sur régime, mais on est au-dessus de ce qu'on devrait faire, voilà. Donc il va falloir arriver à garder ça pérenne dans les années à venir, il va falloir beaucoup travailler, quoi.
On parle budget, Roxane, on sait comment situe l'USAP par rapport aux autres clubs, même s'il y avait eu, ça a monté un petit peu apparemment le budget de Perpignan ces dernières années.
Et bien Perpignan, c'est le 13e budget du championnat, comme le disait Charles, 21 millions d'euros. Il se situe juste devant Oyonnax, qui a un budget de 17 millions d'euros. Et les trois premiers budgets à titre de comparaison sont le Stade Toulousain avec 46,3 millions d'euros, donc c'est sûr que c'est vraiment pas du tout la même chose. Et si on compare avec Bayonne, qui est un club qui est remonté en top 14 aussi récemment, qui est un club un peu plus similaire à l'USAP, Bayonne, c'est le 11e budget du championnat avec 27,3 millions d'euros.
Travaille pas trop mal. Ouais, ça, Julien, ça, on parlait des infrastructures, justement, de centre de formation, Aimé Giral. Julien, c'est quoi les projets?
Voilà, ils s'entraînent au parc des sports. Ils s'entraînent, comme le dit Charles, au parc des sports. Ils partagent les infrastructures avec les collèges, les lycées. Ils sont dans un Algéco. C'est vrai que c'est compliqué, mais oui,
c'est dingue. Hein, en top 14, quand on voit certaines structures
Dans
le club.
Alors après, là, ils sont en train de retourner un petit peu à Aimé Giral depuis quelques semaines pour s'entraîner. Donc ça veut dire qu'ils s'entraînent sur la pelouse du top 14. Il y a le petit terrain annexe, mais oui, il y a des projets.
Comme il y a 10 ans ou 15 ans, quoi, en fait.
C'est ça, exactement. Non, mais comme dit Charles, ça fait 10 ans que. Le stade a été amélioré. Ils veulent encore le développer, notamment au niveau des partenaires, où ils ont créé des zones de partenaires pour accueillir les avant-matchs et les après-matchs. Et oui, on parle d'un nouveau centre d'entraînement pas loin d'Aimé Giral pour essayer de structurer le club. Et comme le dit Charles, comme le disait d'ailleurs le président, il faut travailler doucement. Ils augmentent la masse salariale, ils essaient d'augmenter le budget et augmenter les infrastructures. Je pense que c'est un travail de longue haleine, de patience. Et c'est vrai que bon, 10 ans, c'est peut-être un peu trop long au niveau de la patience. Mais oui, tu sens que le club grandit doucement, peut-être un peu trop doucement. Mais ils prennent leur temps avec un bassin économique pas forcément non plus très porteur. Ça peut ressembler un peu à La Rochelle avec plein de petits partenaires qui sont en train de s'agglomérer pour créer un budget et peut-être faire comme La Rochelle il y a 10 ans, monter, se maintenir en top 14 et franchir les paliers pour être de nouveau une place forte du rugby hexagonal.
Juste un dernier mot, Charles, sur la formation catalane, comment le club se comporte chez les jeunes, parce que, est-ce que le vivier dans la région est toujours aussi important historiquement quand même, c'est une terre de rugby, il y a eu des bons jeunes, est-ce que voilà comment ouais. se comporte
le vivier il y est, c'est pour ça qu'on est encore à cette place là parce qu'en termes de structure on n'est vraiment pas à la hauteur, par contre en termes humains on y est, que ce soit chez les jeunes, il y a des entraîneurs qui sont issus du club, soit Jean-Pierre Pérez, il y a Marius Tinkou, Florian Cazenave, en fait
on a gardé les anciens.
Ben ouais, voilà, l'humain il est là, donc on apporte, ben, comme on aime ce club, on apporte tout ce qu'on peut, et donc ça permet quand même de sortir certains joueurs, de faire progresser, les espoirs sont seconds, donc il y a, ça y est quand même, ça existe, de toute façon ici dans chaque village il y a tout le monde joue au rugby, tous les petits jouent au rugby, les parents jouent au rugby, les grands-parents aussi, donc c'est vraiment une terre rugby, mais c'est pour ça qu'il faudrait être capable de la valoriser et encore plus que ce qu'elle est, et en apportant de belles structures, ça permettrait de sortir encore plus de joueurs. On en sort, regardez, rien qu'à les piliers gauche, c'est très dur de former des piliers. Mmh. On a Enzo Forletta qui est parti à Montpellier, Kante Walker qui est parti à Castres, il y a Sacha Lautrian qui va partir à Clermont. Alors en fait, en 4 ans, on a réussi à sortir 3 piliers qui sont de très haut niveau. Les deux premiers ont été sélectionnés en équipe de France, Sacha il aurait aussi le potentiel. Donc en fait, le terreau ici, il y est. Il y a le terreau. Maintenant, il faut arriver à tout faire pousser. Quoi. Voilà.
Et à les garder.
Et à les garder, mais oui, voilà. Et pour ça, il faut jouer. Melvin aussi, voilà. Melvin qui est parti au stade maintenant, qui est à Toulon. Il aurait pu, si on jouait les 6 premières places. Oui, Melvin Jaminet, pardon. Si on avait joué les 6 premières places, sûrement qu'il serait resté, parce qu'ici, il était très bien. Après, l'ambiance qu'il y a, le club, c'est un peu particulier, parce qu'on arrive à recréer une ambiance, entre guillemets, de village dans le système professionnel, où c'est que les joueurs sont soudés, s'entendent bien, et on joue vraiment pour le maillot, quoi.
Merci Charles, c'était très complet. On va vivre une fin de saison passionnante pour l'USAP. Le Pau Perpignan de la dernière journée va beaucoup faire souffrir l'ami Julien Landry. Parce que lui, il est un tiers de ci, un tiers de ça, mais il est quand même berné à la base. Donc j'imagine que ça va être dur pour lui. Parce qu'on sait que le Montpellier Perpignan fera moins souffrir Charles Jadier. Est-ce que tu as encore les jambes qui bougent, Charles, pendant les matchs? Est-ce que tu souffres un peu, toi?
Oui, je souffre. Oui, exactement. Ouais, pareil, même. À l'avant-match, je souffre aussi, pendant le match aussi. D'ailleurs, souvent, je le regarde en pesage, le match, c'est pour rester encore debout, pour pouvoir bouger, c'est... pour pouvoir... quand je ne commente pas, je le regarde debout. Voilà.
Faire 2-3 mêlées avec les collègues à côté.
Presque, voilà.
Bon, merci d'avoir passé du temps avec nous, Charles, c'est très sympa.
Non, merci, avec plaisir.
Merci d'être venu dans Entre les poteaux. Merci Roxane, merci Julien.
Merci
à Julien Vélia à la réalisation. On va remercier aussi les gens qui nous suivent, qui sont toujours plus nombreux, parce que chaque mois qui passe, eh bien, énormément de gens nous rejoignent dans cette aventure entre les poteaux. Bah, ça nous rend quand même heureux et fiers. Et merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci de venir partager cette passion avec nous. Et on espère que vous régalez. On a eu un super épisode sur l'USAP. C'était très très complet ce qu'on a fait. Et puis bah, voilà, avec l'ambiance qu'on a évoquée, là, on imagine déjà cette fin de saison là-bas. Passez une bonne semaine.
On va mettre un Quentin Mesfort pour finir quand même, non ? Non, on n'a pas.
Ah, tu veux ? Est-ce qu'on l'a pas. Julien ? On l'a pas.
On l'a pas. On aurait. Bon, voilà. Charles, il va chanter.
Si, tu sais quoi ? On le rajoutera peut-être dans l'enregistrement comme pour faire plaisir aux Catalans et à Julien qui se réécoute tout le temps quand les podcasts sortent. Allez, on vous embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de LP Entre les poteaux. Ciao.
Quand t'aimes fort, l'âme sobre al corps.